Bonheur les Marseillais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 ou mieux 0-3 au stade Vélodrome qu'on a climatisé comme d'habitude. Retour à la normale maintenant qu'on a récupéré Kylian Mbappé. Ça va faire 13 longues années que Marseille n'a pas gagné dans son Vélodrome en championnat face au Paris Saint-Germain. Alors déjà, merci à tous nos joueurs franchement d'avoir... été impliqué ce soir, c'est un truc de ouf ce que je dis, mais c'est censé être la base. Mais aujourd'hui, franchement, je crois qu'on va tout de suite annuler la rubrique top et flop, tellement j'arrive pas à trouver un flop dans ce match. J'ai pas trouvé Messi exceptionnel, à part les éclairs de génie qu'il a eu sur les trois buts. Mais comme tu as dit tout à l'heure en off, tu m'as dit quand on domine pas, on le voit moins. Toi, tu as pensé quoi de tous les joueurs du Paris Saint-Germain ce soir, tonton?
Bah, tu l'as dit toi-même, un niveau d'implication qui a changé pas mal de choses. Deux joueurs pour moi qui symbolisent complètement ce match, c'est Marquinhos et Vitinha, qui étaient sur plusieurs matchs où ils n'étaient pas sur leur diapason, où c'était compliqué pour eux. Et ce soir, clairement, on les a pas reconnus. Marquinhos s'est projeté, il a même failli marquer un but. Patron défensif, rugueux comme il faut. Le Marquinhos qu'on attend, en fait, c'est celui qu'on veut voir à chaque match. Et Vitinha, de la même manière, je ne sais pas si l'absence de Neymar... un lien de cause à effet, mais Vitinha ce soir vachement plus à l'aise aussi techniquement, vachement plus à l'aise avec le ballon. Il n'a pas hésité à prendre des risques cette fois, alors que c'est quelque chose qu'on lui reproche d'habitude. Donc je te rejoins sur le fait qu'il y a eu beaucoup plus d'envie et ça s'est vachement manifesté dans le peu d'occasions qu'on a eu en première mi-temps, parce que c'est pas comme si on fait 10 tirs en première mi-temps, mais on est très clinique en première mi-temps. Et vraiment, les intentions de jeu ont été très bonnes ce soir en tout cas.
Ouais, je te cache pas que je suis quelqu'un de très exigeant. Donc, à la mi-temps, on y va à 45 minutes. Je vois 0-2. Et je sais pas si tu te rappelles, dans nos conversations privées, je disais, mais je suis grave énervé. Normalement, il y a 4-0 à la mi-temps. Je me suis dit, ça, c'est typique le match où on va pas mettre les buts. Et après, ils vont nous rattraper. Mais au final, ils ont été solides du début jusqu'à la fin. Et on n'a pas eu ce trou d'air qu'on a régulièrement avec le Paris Saint-Germain où à un moment donné dans le match, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils ont tous peur. Franchement, ils ont été solides du début jusqu'à la fin. Et je sais pas si tu veux, on va commencer par derrière, parce que on va bien évidemment parler de Kylian Mbappé, parce que contre Marseille, c'est pas du tout la même chose. Mais déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match de Didier Donnarumma? Parce que franchement, je me rappelle dans les commentaires toute l'année, il se fait démonter des fois à juste titre. Mais là, ce soir, franchement, qu'est-ce que tu as à dire sur Didier?
Pas que ce soir, je veux dire, c'était déjà le cas contre Monaco, où il nous fait une prestation où vraiment, s'il n'est pas là, on en prend facile 3 de plus. Je pense tout simplement que Donnarumma, depuis que Navas a quitté le club, il est libéré d'une certaine pression, et je pense que ça va se voir. Alors, le jeu au pied, c'est toujours pas ça, on va pas demander à Donnarumma de devenir Manuel Neuer du jour au lendemain, mais sur sa ligne, ça reste un gardien très très fiable. Et ce soir, notamment sur la tête de Sanchez, il le prouve totalement. Je t'avoue que moi, j'ai eu le doute sur le fait que le ballon soit rentré ou pas. Bon, la VAR te confirme que le ballon n'a même pas été sur la ligne, mais vraiment, Donnarumma au sol, même face à Vitinha un peu plus tard, c'est un gardien de très très haut niveau quand il est impliqué en tout cas.
Ok, on va aborder la défense maintenant parce que je vais être très clair dans ce que je vais dire parce qu'après, les gens, ils vont me tomber dessus. À la base, je ne sais pas si vous avez regardé le live hier où on était avec Yacine. J'ai dit que moi, je voulais un 3-5-2. Et notamment, je voulais Danilo dans la défense. Donc, je ne voulais pas de Kimpembe. Donc, je souhaite tout bon rétablissement à Kimpembe. Ne prenez pas mal ce que je dis. Mais quand Danilo est rentré, j'étais content parce que je sais que c'est un mec qui déçoit très, très rarement. Et je savais que Presco, il n'était pas à 100% de ses capacités. Et du coup, quand il est rentré, j'étais tout de suite rassuré par rapport à la défense. Et franchement, ça s'est vu sur le reste du match. Qu'est-ce que tu as pensé de la défense du Paris Saint-Germain ce soir, tonton? On va parler des trois du milieu. J'ai trouvé qu'ils étaient graves en symbiose pour une fois. Il n'y a pas des décalages de placement dans les positions comme on voit régulièrement. Il y en a un qui s'oublie et qui est 10 mètres derrière l'autre. Là, franchement, j'ai trouvé que tout le monde était connecté et tout le monde a fait le travail.
Je suis d'accord avec toi. Déjà, pour venir sur Kimpembe, moi, je pense qu'il y a un truc à se poser comme question au niveau du staff médical, parce qu'entre la rechute de Kimpembe, de Neymar, de Nuno Mendes, de Renato Sanchez, je pense qu'il faut se poser des questions sur est-ce qu'on ne fait pas revenir des fois nos joueurs un peu trop tôt? Parce que c'est pas Kimpembe, c'est pas le premier qui rechute. Et je pense que ce sera pas le dernier à ce rythme-là d'ici la fin de saison. Et pour revenir sur la défense à 3, qui est plus ta question, ben moi j'ai remarqué qu'en fait le positionnement des 3 dans l'axe n'était pas le même que d'habitude. D'habitude, ben Ramos est à droite, Marquinhos est dans l'axe, Danilo est à gauche. Non, 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 non. Cette fois, Ramos a été dans l'axe, Marquinhos a été à gauche, Danilo a été à droite. Et ben, peut-être que dans la défense à 3, c'est le plus satisfaisant de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Donc, je te dis pas qu'on a trouvé ça y est la bonne formule et qu'on va rouler sur l'Europe avec cette formule. Restons mesurés. Mais en tout cas, pour ce soir, ça a très bien fonctionné. Et je pense que si on est sur la défense à 3, ben, peut-être penser à ce placement des trois défenseurs de cette manière-là et pas mettre Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe et Danilo à gauche, en tout cas.
Non, mais franchement, au-delà de la victoire, j'ai un petit peu de fierté par rapport à Paris Central, dans le sens où tout ce qui a été fait ce soir, c'est ce qu'on demande depuis le début de la saison. Et on voit que même si l'équipe a des faiblesses, elle est beaucoup plus solide et beaucoup plus régulière, entre guillemets, dans la performance du début jusqu'à la fin du match. Notamment, qu'on dit souvent que dans ce genre de match, l'équilibre est primordial, notamment sans les trois de devant. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Que Ramos, ça fait 50 ans, on a dit qu'il devait être dans l'axe, au milieu, et que ça devait pas être Marquinhos. On a dit qu'il fallait mettre Danilo titulaire. Franchement, tout ce qu'on a dit, franchement, ce soir, il a fait, ça s'est très bien passé. Après, il faut dire aussi que Marseille s'est tiré une balle dans la jambe en voulant rester fidèle à eux-mêmes. Et ils ont joué très très haut. Moi, je pensais pas qu'ils allaient oser jouer aussi haut. Mais ils ont continué. Franchement, respect à eux qui ont joué leur jeu et qui ne se sont pas dénaturés face au Paris Saint-Germain. Mais toi, t'as pensé quoi du fait que Marseille soit resté dans leur jeu, sachant que Kylian Mbappé était sur le terrain cette fois-ci?
Bah, en soi, on va pas leur reprocher d'avoir joué comme ils ont joué d'habitude. C'est leur essence et leur manière d'être depuis le début de saison. Donc en soi, ça aurait été plutôt même bizarre que Marseille change de manière de jouer et ne maîtrise pas ce qu'ils doivent faire. Mais du coup, on en avait parlé un peu en off, toi et moi aussi. Le problème, c'est qu'en l'absence de Chancel Mbemba, tu n'avais pas ce défenseur fiable qui allait pouvoir prendre Mbappé au marquage du début à la fin. Et ça s'est vu parce que quand tu vois le premier but du PSG, c'est très grave l'erreur de Bailly. Je veux dire, Mbappé lui met facile 7 mètres d'avance avant que Bailly réagisse et se rende compte qu'il n'est plus au marquage sur Mbappé. Et Bemba n'aurait pas fait cette erreur. Je ne te dis pas qu'avec Mbemba, on ne gagne pas le match, mais tu n'aurais pas eu autant de facilité sur certains déplacements en tout cas. Donc oui, je pense que le schéma de Marseille était risqué. Je pense qu'ils ont gardé leur philosophie de jeu et ça, tu ne peux pas leur enlever. Ils ont porter leur attribut, on va dire entre guillemets, pour être poli, mais ça leur a coûté cher au final parce que bah, les trois buts qu'on met au final, c'est sur des mouvements rapides parce qu'ils ont joué trop, parce qu'ils ont tenté, parce qu'ils ont eu du risque dans le jeu. Mais je laisse Hitch parler un peu vu qu'il vient d'arriver.
Avant de passer la parole à Hitch, expliquez-moi ce commentaire de Chico Stéphane parce que je crois qu'on n'a pas vu le même match. Je te laisse répondre à ça, Hitch. Vas-y, je te la laisse.
Non, mais au bout d'un moment, il y a des gens qui. En fait, il y a des gens, ils aiment bien faire. Genre, ils se démarquent des gens. Ils se démarquent de la meute. Là, la personne qui ne voit pas Kylian Mbappé homme du match, c'est criminel. Kylian Mbappé, je pense que depuis Ronaldinho, on n'a pas vu une telle perf d'un joueur parisien lors d'un classico. Depuis Ronaldinho, il fait une passe D. Il marque un but. Et il est dangereux tout le match. Alors bien sûr, c'est bizarre, on gagne 3-0 aujourd'hui. Pourtant, on peut être un peu plus gourmand et on est peut-être un petit peu déçu qu'il n'y a pas eu peut-être 5 buts. Parce qu'il y a un face-à-face de Messi qui ne doit pas rater et un face-à-face de Kylian sur un très bon travail de Messi qui ne doit pas rater. Mais là, je pense que ce match-là, ça rétablit une vérité. Et je pense que ce match-là, on sera un peu moins parce qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters de l'OM. Donc moi, j'attends les Allez l'OM, les couleurs, les bleus et blancs. Moi, je vous attends, les gars. Hein. Si vous êtes fidèles à vous-même, si vous encouragez vos clubs, votre club, dans la victoire, encouragez-le dans la défaite. Donc, plus rationnellement, Marseille a perdu contre Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est une équipe qui ne s'est pas dénaturée. Ils ont gardé leur jeu. Ils ont essayé de faire le jeu. Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Lorsqu'on vous dit, depuis 5-6 saisons, que il n'y a pas de rivalité Paris-Marseille. Ça n'existe pas. Il n'y a plus de rivalité sportive entre ces deux clubs. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Lorsque Marseille bat le PSG, Marseille joue bien, mais c'est le PSG a mal joué. Le PSG n'est plus égal à soi-même. Et là, aujourd'hui, il y a une vérité qui a été rétablie. C'est-à-dire que Marseille et le Paris Saint-Germain, ça ne boxe pas dans la même cour. Voilà. Et oui, Kylian Mbappé, homme du match. Ça, il n'y a pas de débat. 2 et 2, enfin 2 plus 2 font 4. Et 2 fois 2 aussi, d'ailleurs. Voilà.
Ok. On va parler maintenant des latéraux, les gars. On a eu Nuno Mendes qu'on a eu régulièrement ces derniers temps. Nuno Mendes de haut niveau qui percute et qui est complètement inarrêtable, en fait. Il est complètement inarrêtable et qui est le relais principal de Kylian Mbappé pour les contre-attaques. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Nuno Mendes ce soir, Tonton?
Alors, bon, mais moyennement bon. Mais il revient de blessure. Il n'était même pas annoncé titulaire pour ce match. On pensait avoir Bernat. Donc déjà, je suis très content que Nuno ait pu jouer ce match. Mais Nuno moyen bon. C'est pas une performance mauvaise, mais c'est pas du top top Nuno non plus. Mais étant donné que bah, il revient d'une blessure et d'une rechute, je pense que c'est bien qu'il ait pas pris trop de risques, qu'il soit sorti avant la fin du match. Tu le fais reposer un peu et comme ça il sera en forme contre le Bayern, parce que on va pas se mentir, c'est à ce moment-là surtout que Nuno Mendes devra être présent. Mais bonne performance sans être incroyable non plus ce soir.
Ok, et je vais te demander ce que tu as pensé de l'autre latéral, du coup, Mukiele, qui régulièrement ces derniers temps, je crois que tu faisais partie, et Tonton aussi également, de ceux qui demandaient des joueurs un peu plus Île-de-France, pour les classicos avec de l'impact et de l'intensité. Je pense que Mukiele, il a vraiment apporté ça ce soir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Itch.
Attends, déjà, il y a un commentaire qui m'a extrêmement énervé. Quelqu'un qui a dit Itch, il en quel but? Cette chaîne-là, elle a des principes. Je le supporte. D'accord ? Eh bien, Paris Central, c'est quand même professionnel. On n'est pas au PMU. Donc, non, je ne suis pas en quel but. Ça, c'est un. Maintenant, mon kiné. Oui, moi, j'ai milité pour plus d'Île-de-France, pour plus même de France au Paris Saint-Germain. Après, l'équipe des banlieues, ils ont déjà essayé avec Anelka. Ça n'a pas forcément marché. Donc, moi, ce que je défendais plutôt, c'était une équipe vraiment où axée avec les talents d'Île-de-France, mais tu la centres autour de grands talents du football quand même. Hein, faut pas abuser, parce que les fans des City, des City Stades, hein, pas de Manchester City, ça ne marche pas. Voilà. Mais oui, je milite pour plus de talents d'Île-de-France, bien sûr, parce que déjà, on voit que Mukiele, il se sent concerné quand il joue. Mukiele, il fait un très bon match, à la fois dans l'impact physique, et même dans même parfois, ce que je lui reproche, c'est dans la projection en avant. Mais après, dans ce match-là, ça va faire peut-être... depuis quoi? Depuis un an qu'on n'a pas su dire des flops. Là, ça va être compliqué de dire des flops, parce qu'ils ont tous mis le coup.
Il n'y en a pas, clairement.
Mais Mukiele a très bien joué, oui, c'est vrai.
Je peux sur Mukiele ou collectif?
Du coup, pour la confiance, c'est bien.
Ouais. Bah, vas-y, si ça te fait plaisir, on sait que tu aimes bien Mukiele, tonton, vas-y.
Non, moi j'étais super content que Mukiele signe. Donc le fait qu'il fasse un match comme ça, je suis ravi. Parce qu'il s'est fait tellement tirer dessus au début. Parce que bah, forcément, en temps d'adaptation, ça parlait de lui comme un joueur en caterpillar, pas à l'aise. Et franchement, ça fait du bien de le voir dans ce genre de performance. C'est genre dur sur l'homme, comme il faut. Franchement, bonne performance. Et je pense que Mukiele, petit à petit, va très bien s'intégrer dans cet effectif. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un joueur de ce niveau avec ce genre de performance pour pousser Hakimi aussi un peu plus haut, parce que ce n'est pas la même concurrence que Dagba ou Pembele d'avoir un Mukiele aussi.
Ok, les gars, là, on va aborder le milieu qui était sensible, qui a été très décevant depuis le début de la saison. C'est notre milieu de terrain. Là, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a enfin un milieu de terrain qui a dominé le milieu de terrain d'en face. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Enfin, peut-être que Galtier a mis les pièces là où il fallait les mettre. Mais l'organisation à trois, souvent quand tu voyais qu'un Marseillais prenait le dessus sur un Parisien, il y avait la deuxième lame et il y avait un mec qui était pas très loin. Et c'est ça qui a été la clé. Je pense qu'on a ramené beaucoup d'intensité. Et je le disais hier avec Yacine de Paris United qui était passé sur la chaîne. Je disais, tout le monde parle d'un 3-4-3, mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas d'un 3-5-2 avec trois milieux de terrain. Et là, Galtier nous l'a fait aujourd'hui. Et la densité que ça ramène au milieu, c'est terrible. Dès qu'il y a un mec Il y a un Marseillais qui dribble un joueur. Directement derrière, tu avais Verratti ou tu avais Ruiz qui venait derrière. Ils étaient souvent à 2 contre 1 et direct, ça fait la différence. Je ne sais pas si tu as vu la même chose, tonton.
Mais complètement, c'était un truc dont on parlait il y a 2 semaines, je crois, quand on demandait la compo qu'il fallait mettre contre le Bayern. Je disais, il faut mettre une défense à 3 et un milieu à 3 parce que ça te permet justement d'être plus compact et d'être plus à l'aise techniquement dans l'axe, dans cette zone où on perd un maximum de ballons, où c'est dangereux de le perdre. Et là, je ne te dis pas que c'est bien que Neymar soit blessé, je ne te blessure à personne dans notre effectif, mais on ne va pas se mentir, il y a soit la doublette Messi-Mbappé, soit la doublette Neymar-Mbappé, mais c'est compliqué d'avoir Neymar, Messi-Mbappé et d'arriver à organiser le reste de l'équipe autour. Et là, le fait que tu n'en aies que deux, tu peux faire une défense à 3, un milieu à 3, 2 pistons, et Messi-Mbappé, regarde, comme à leur habitude, ils n'ont pas couru, ils ne sont pas venus défendre plus que ça, mais ça n'a pas gêné ce soir, parce que du coup, techniquement, ils étaient frais pour le peu de moments où on avait besoin qu'il le soit.
Toi, Hitch ?
Ouais, je tiens à répondre à quelqu'un du chat qui a dit « Laissez exposer votre joie, ça se voit que vous auriez kiffé que Léo Marc bande nanana le seum dans vos yeux. » Moi, je tiens à rappeler que ce n'est pas ça qu'on
a marqué. Il a marqué, mais si j'étais content qu'il marque.
On va pas casser des télés. Ici, on analyse le football. Bien sûr, les supporters du PSG, mais je ne vais pas me renverser du coca dessus ou aller brûler des meubles chez moi. Oui, mais on est content parce qu'il y a victoire. Mais il faut arrêter de… Si vous idolâtrez des joueurs, c'est votre problème. Nous, on n'idolâtre pas des joueurs. Nous, c'est le club avant tout. Voilà. Messi a marqué aujourd'hui. Merci à lui. On a célébré. On était contents. Mais voilà.
Les gars, j'ai une info dans le chat, là.
Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà. Bref. Maintenant, analyse tactique. Donc, le milieu de terrain marseillais, ce soir, c'est Rongier vers tout. Verrez tout. Vertout ou Verretou ?
Vertout et Guendouzi aussi.
Voilà. Guendouzi, il joue quand même en 3-4-3. Tu vois, il joue quand même en 3-4-3. Voilà. Donc, ils sont à 2 milieux officiellement. Après, c'est vrai que Guendouzi, parfois, redescend. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il joue en 3-5-2. Donc, avec 3 milieux. Donc, 3 contre 2 milieux. 3 contre 2 milieux. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a eu cette supériorité dans le milieu de terrain. Parce qu'ils avaient, encore une fois, tout d'abord la supériorité numérique. Et là, on l'impute à Galtier. Galtier a très bien préparé son match. Galtier a très, très bien préparé son match. Parce que déjà, tu commences avec un avantage numérique au milieu de terrain. On parle de l'autre côté. Union Terrain, Bayern contre l'Union Berlin. J'ai dit Union Terrain, qu'est-ce que je raconte ? Union Berlin. Parce que parfois, mon cerveau, il va trop vite. C'est pour ça, les frères. Je suis un génie, mais incompris. J'ai un pantalon. Eh les gars, j'ai un pantalon.
Bah,
vous savez quoi, je vais streamer.
Non.
Du coup, les gars.
Vite, c'est bon. On remontage.
Je vais partir sur la chaîne, moi, si je continue. Donc, je disais, ce qui est intéressant, c'est que l'Union Berlin contre le Bayern Munich, bon, l'Union Berlin, il perd 3-0. J'ai vu le match. Ok, boucherie. Mais le Bayern, il passe systématiquement par les côtés. L'Union de Berlin, ils ont joué en 3-5-2, comme le Paris Saint-Germain. Et le Bayern, pareil que Marseille, en 3-4-3. C'était vraiment un match miroir. Et l'Union Berlin, au milieu de terrain, ils ont eu quand même la supériorité au niveau des impacts, parce qu'ils avaient la supériorité numérique. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, Marseille, je pense qu'ils ont voulu délaisser la bataille du milieu de terrain pour passer par les côtés. Manque de peau, tout le monde était au niveau ce soir, parce qu'on avait un très bon Nordi Mukiele. Et un Nuno Mendes qui certes revient de blessure, mais faisait le taf défensivement.
Mais je pense que Marseille s'attendait à avoir Bernat et Pembele aussi comme piston en face 2.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, parce que Nuno Mendes, il y avait quand même le doute qu'il soit présent ce soir. Justement, parlant du milieu de terrain, on va essayer de parler des individualités de ce milieu de terrain, parce que là, ce soir, il y en a un qui a crevé l'écran, même si moi, personnellement, il m'a énervé à plusieurs reprises dans le match, où, par exemple, il pouvait avancer et à chaque fois, il temporisait. Mais en dehors de ça, j'ai rien à reprocher à Vitinha ce soir, qui a fait probablement l'un de ses meilleurs matchs. Si ce n'est peut-être le meilleur, je ne suis pas sûr, par rapport à ses débuts. Mais ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait un match comme ça, en tout cas. Et par exemple, Tonton, tu as pensé quoi du match de Vitinha ce soir ? Et peut-être que l'absence d'un certain joueur qui lui tape dessus régulièrement, quand il rate des passes, peut-être que ça l'a débridé.
Ben, je pense tout simplement, c'est ce qu'on disait, c'est pas forcément l'absence de Neymar en lui-même, mais je mets le nom, hein, Nix, hein, t'as voulu me mettre dans le bourbier, donc je mets le nom que tu as pas voulu mettre. Non, c'est pas forcément l'absence de Neymar en lui-même, je pense que c'est plus, comme je disais, le fait que t'en es pas les trois de devant. Donc forcément, le fait que t'es pas les trois de devant, les milieux de terrain ont plus d'occasion d'avoir le ballon pour eux créer le jeu. Et sur le premier but, si tu vois bien exactement, c'est Vitinha qui sert Messi, parce que techniquement, il peut se permettre de le faire parce qu'il n'y a pas bah, le troisième fanfaron dans les pattes. Donc il peut se permettre de faire le mouvement pour passer la balle à Messi qui lui lance Mbappé. Donc je pense peut-être, et si Messi avait été absent, ça aurait peut-être été la même chose, tu vois. Je pense que c'est tout simplement le fait que bah, t'es Neymar et Messi qui sont tous les deux des créateurs de jeu. Bah forcément, quand tu as un milieu créatif, bah ça te bride forcément d'avoir Messi et Neymar qui vont tous les deux redescendre au milieu de terrain pour faire le jeu. Et là, le fait que tu en aies un de moins des deux ce soir, bah je pense que ça facilite grandement Vitinha ouais, dans son style de jeu.
Et toi, tu t'en penses quoi?
Bon, bah, j'ai vu qu'en commentaire, c'était très demandé avec moi et mon pantalon. Du coup, je vais répondre aux deux. Déjà, j'ai un pantalon, j'ai un sarouel. Donc, c'est pas un sarouel, c'est un bas de survêt, mais très large. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, Neymar, c'est assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui vont lui taper dessus. Hein, donc, hashtag nos amis des RMC, hashtag beaucoup de médias vont lui taper dessus. Neymar. Maintenant, je lis les commentaires. Attends, je vais les activer les commentaires, mais je les lis plus. Donc
Dis plus, vas-y.
maintenant, il faut quand même savoir que Neymar, pendant longtemps au Paris Saint-Germain, c'est lui qui faisait la liaison entre le milieu terrain et l'attaque. On n'avait pas ce joueur qui était capable de porter la balle. En 3-5-2, c'est différent. En 3-5-2, c'est différent. Pourquoi? Parce que le danger, il peut venir essentiellement des côtés ou des Mbappé qui part en profondeur. Donc Neymar n'est pas adapté à ce système de jeu. Sur le 3-5-2, Neymar n'est pas adapté. Tu repasses en 4-4-2, peut-être que. Mais maintenant, Neymar, Messi, Mbappé, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. C'est pas fut. Tout simplement parce que des joueurs, ils ont des zones. Ils ont des zones, ils ont un quadrillage. Et Mbappé et Neymar et Messi, déjà, un, ils se cherchent à l'outrance. Et de deux, ils sont sur la même zone. Donc c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc Neymar, Messi, ça marche sur Instagram, sur des posts, etc. Mais sur un terrain de foot, ça ne marche pas. Ça marche pas. Si Mbappé avec, ça marche pas. Donc là, Neymar, il est blessé. Faut pas. T'as un traître, tonton. Je suis choqué de toi. Bon. Et du coup, Neymar, Mbappé, Messi, ça ne marche pas. Et on le savait. Et là, on le sait encore mieux. Et le meilleur, et le 3-5-2, c'est le meilleur système palliatif pour pallier à l'absence de Neymar et pour faire briller un duo avec Mbappé et Messi, qui se sont fort bien trouvés. Mbappé et Messi, ça connectait bien, c'était la 5G ce soir.
Ouais, franchement, le fait d'en avoir que 2 sur 3, c'était. Bah, ça fait, tout le monde le dit depuis des mois et des semaines. Tu peux pas avoir une équipe équilibrée avec deux joueurs, trois joueurs qui redescendent
Mais
pas.
c'est ça, mais c'est comme la
Mais
critique.
même si Messi avait été absent, ça aurait été pareil. Je pense que Neymar, si ça avait été Neymar et pas Messi, que tu aurais eu
Mais
Neymar-Mbappé,
ça aurait
je suis sûr
fonctionné aussi.
ça
C'est
aurait
ce qu'on a dit
glissé.
depuis le
Mais ça
début. On
aurait
a dit
glissé.
juste, tu peux mettre
C'était
Messi
pas
Neymar.
Neymar
Non, en
lui-même.
fait, le seul qui marche pas, c'est Messi Neymar, je trouve. Parce que, en fait, il n'y a pas le finisseur avec les deux. Mais Messi n'est plus le finisseur qu'il était dans les temps d'avant. Et là, franchement, ce duo-là, je ne trouve pas. Mais que tu mettes Messi Mbappé ou Neymar Mbappé, en général, ça fonctionne toujours très bien.
C'est vrai, je suis
Et
d'accord avec
je
toi.
voulais parler avant d'attaquer les attaquants et parler de Fabian Ruiz aussi. Vous pensez que l'entraînement au public qu'on a fait vendredi au Parc des Princes a eu un effet sur la mentalité des joueurs ce soir? Parce qu'il y a eu deux choses qui m'ont interpellé. Il y a eu Marquinhos à la fin de la première mi-temps qui vient au micro de Prime Vidéo et qui dit je me suis mal exprimé la dernière fois. En fait, on est là pour gagner et on est vraiment là, on veut tout gagner, on va tout laisser sur le terrain. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a recadré Marquinhos. Je ne sais pas si c'était en interne ou si c'était des supporters vendredi. Et deuxièmement, l'attitude ce soir, elle est irréprochable. J'ai rien à dire à qui que ce soit. Donc est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle? Vas-y, je t'écoute, tonton.
Déjà une petite mention à Lasana qui envoie des super pics à Itch dans le chat depuis tout à l'heure. Non,
Bah
blague à
moi, ils vont
part.
m'énerver. Vous allez m'énerver, je vais me lever, je vais enlever mon pantalon. Continuez à m'énerver, vous allez voir.
Non, justement, garde-le.
Non, non, je
Donc.
vais l'enlever, chef. Là, ça commence à. Et moi, c'est simple. Si le PSG, si le PSG, il bat le Bayern, pareil, par deux buts ou plus, je vais streamer avec mes gars de Paris Central en caleçon. Voilà. Et là, on
Non, non,
pourra
non, on va
parler.
sauter.
Mais
On va
non, c'est
sauter
ça, les
direct.
gars, non.
Plus sérieusement, tonton, vas-y, continue
Allez.
sur ce que tu allais dire.
je te laisse me reposer la question du coup, parce que notre ami
ah, est un peu perdu. Doux. La question, c'était est-ce que l'entraînement de vendredi au public a changé les choses pour la mentalité des joueurs ce soir?
Alors, je sais pas si pour tous, mais peut-être pour certains, parce que je sais pas si tu as vu l'interview de Marquinhos en avant-match, tu avais l'impression qu'il a vu les tweets, il a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux de son interview, et genre, il était un peu en mode non, non, mes propos, ils ont été déformés, moi, je voulais plutôt dire ça. Et je pense que, tu sais, ça s'est senti à un moment. Genre, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois, en rigolant, j'ai dit qu'à un moment, Bernat, il avait chopé l'étoile d'invincibilité dans Mario Kart, comme Kurzawa contre Dortmund. Marquinhos, il a eu ce truc un peu à un moment, t'as vu, il a pris le ballon, il fait un appel, il part droit au but et tu le sens, genre il voulait terminer l'action, genre il voulait mettre le but rageur en mode ça c'est pour tous les mecs qui m'ont critiqué. Bon, malheureusement, il n'y est pas arrivé, mais il fait quand même une super prestation. Donc je pense que certains joueurs comme Marquinhos et Vitinha, ça a pu leur faire du bien, mais je pense qu'un mec comme Kimpembe, Mukiele, Mbappé n'en avait pas spécialement besoin.
Et toi, H, tu penses que ça a joué ou pas? Ça n'a rien à
oui,
voir, c'était le classico.
Ça a joué, il y a une image quand même qui est forte. C'est qu'on voit à l'entraînement, on voit Messi, pendant peut-être 45 secondes, une minute, il est déconnecté, il regarde le virage, il ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que ces joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont un peu en autarcie dans le vestiaire. Et à un moment, on essaie tellement de les mettre en sécurité, de les mettre dans leur cocon, qu'on ne leur montre pas forcément ce qui se passe. Et peut-être sur ça, le club, il les protège trop. Parce que parfois, il y a des critiques justifiées de la part des supporters. Et le club n'en parle pas forcément. On voit des joueurs, quand ils se font huer, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils se font huer, ils se font siffler, ils ne comprennent pas. Mais là, le fait d'avoir vu l'ardeur des supporters pendant cet entraînement-là, ça les a galvanisés. Je pense qu'il y a une dimension du supporter au Paris Saint-Germain qu'ils n'ont pas forcément. Mais si, par exemple, ils jouent au Barça. Les supporters de Barça, ils sont gentils, c'est des bisounours. Je ne vais pas mettre à dos le Barcelone. Mais Barcelone, c'est pas des supporters vraiment méchants. Voilà, c'est comme le Real de Madrid, c'est des institutions du football. Voilà, les ultras, c'est mignon. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas ça. Le Paris Saint-Germain, c'est vraiment, il y a une forte dimension populaire. Parce que c'est un stade, parce que c'est un club qui a changé de dimension récemment. C'est un club qui a changé de dimension récemment. Et t'es obligé de composer avec les supporters. T'es obligé de composer avec les supporters. T'es obligé. Et je pense que ça a galvanisé les joueurs et ce serait bien d'en faire plus parce qu'il y a certaines familles. Aujourd'hui, c'est dur d'aller au stade parce que les places, elles sont chères. Alors aller voir à l'entraînement, qui moi, je pense, devrait être gratuit. Je ne comprends pas par contre pourquoi on le fait payer. Ça, normalement, pour moi, ça devrait être gratuit. Mais ces événements-là, il faudrait en faire plus. À la fois pour les joueurs qui sentent vraiment le 12e homme et à la fois pour les supporters parce que du coup, ça fait plaisir de voir quand même à l'entraînement Neymar, Messi, Mbappé et les grands joueurs.
Ok, on va parler d'un joueur en particulier. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il va falloir m'expliquer pourquoi tu es bon que contre Marseille, que ce soit match aller et match retour. Je crois que tu es un vrai titi parisien, Fabien Ruiz, en fait. Parce que je ne comprends pas pourquoi au niveau des matchs, quand c'est Marseille, il est en général bon. Ces deux matchs, déjà match aller, il était top. Et là, ce soir, franchement, d'ailleurs, Turpin, je trouve qu'il a été cool ce soir parce que Fabien Ruiz, il a eu trois fautes assez rapidement collées et finalement, personne n'a pris de carton jaune pendant tout le match. Du coup, je vais revenir. Tonton, tu as pensé quoi de Ruiz, du coup?
Il a fait un match, comment dire, étrange parce que si tu regardes que le foot, tu dis « Ouais, mais Ruiz, il n'était pas là, il a servi à rien ». Mais en fait, il s'est tapé tout le taf de l'ombre, le taf un peu chiant à faire. Donc, bonne prestation, il faut le dire, parce que il a fait pire que ça. Il y a eu des matchs où il était insipide, ou même une passe, il ne savait pas faire. Là, ce soir, match correct. Tu vois, pas match incroyable, mais match correct de sa part. Et c'est compliqué à dire que c'est un top, parce que c'est pas la prestation de Messi ou de Mbappé non plus dans les moments clutch. Mais Ruiz a été bon ce soir, clairement.
Et toi, Hitch?
Oh, clairement, il a été bon ce soir. Ruiz, parfois, on lui reproche d'être comme Doliprane solaire, c'est-à-dire qu'il se dissout dans le match. On n'arrive même pas à noter parce qu'il est invisible, on ne sait pas trop où il est où. Hein, ce match-là, il a été solide comme au pantalon, ce match-là. Il a été là sur le terrain, il a été solide. Et c'est bien parce qu'on a vu Ruiz se projeter, on l'a vu, il mettait des crochets, on a vu s'attaquer. Et lui, il était là, il était juste aux abords de la surface et c'était intéressant. Parce qu'il y avait de la personnalité. Voilà. Et concernant Solaire, il n'a pas joué aujourd'hui, non? Bon. Ah, j'arrive pas à savoir quand il est sur le terrain ou quand il est pas sur le terrain. C'est pour ça que bon.
Franchement, voilà. les absents du jour, ils ont tort parce que.
C'est vrai.
Ceux qui ont été là, sur le terrain, ils ont marqué des points pour garder leur place.
Surtout qu'il y avait un bon mood. Surtout que là, il y avait un bon mood. C'est-à-dire que là, tu rentres des joueurs qui sont un peu en méforme, comme les Carlos Soler, etc., à 3-0. Ils ont un bon mood pour un peu performer, pour apporter un peu ce grain de folie. Mais après, du coup, je pense que quand même, collectivement, cette performance, même aux absents, elle va profiter. Parce que, encore une fois, je pense que même dans le vestiaire, ça va assainir un peu l'ambiance. Parce qu'ils avaient quand même une grosse part de pression, à la fois Marquinhos, à la fois même Galtier. Galtier, je pense qu'on en reparlera après de Galtier, mais il y avait une grosse part de pression dans cette équipe. Aujourd'hui, ils abordent le match de la meilleure des manières. Donc c'est, ils abordent le match du Bayern de la meilleure des manières. Donc c'est très bien. Ah, après, il reste une semaine encore. On ne connaît pas au Paris. Il reste une semaine.
Hein, vous vous enflammez beaucoup là. Ça y est, on a gagné Marseille 3-0. Je vois, on va gagner la Ligue des Champions. Hey, calmez-vous, les garçons. Ça va aller. Faites doucement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah, du coup, on va attaquer les deux de devant, Kylian Mbappé et Léo Messi. En avant-match, on disait que l'absence d'Mbemba, elle allait être fatale. Et elle a été fatale. J'ai vu beaucoup le placement de Eric Bailly qui laissait. En fait, il était focalisé sur Mbappé et il pensait pas à son alignement. Et en fait, la première mi-temps, je me suis dit, mais c'est quoi cette défense? Je ne comprends pas parce qu'en même temps, oui, Kylian Mbappé, il a fait un très, très grand match, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai trouvé que défensivement, Marseille ne trouvait pas de solution pour Kylian. Tu vois, des fois, certaines équipes se mettent à deux sur lui pour, entre guillemets, le gêner. Là, la plupart du temps, il était toujours en 1 contre 1. Mais tu ne peux pas stopper Kylian en 1 contre 1, surtout si tu t'appelles Eric Bailly. Donc, tonton, toi, tu as pensé quoi de la performance de la défense marseillaise face à Kylian Mbappé? Et est-ce que tu penses que l'approche de Kylian, en tant que Titi parisien, entre guillemets, puisqu'il vient de Paris, a joué sur l'importance d'un classico, chose qu'on a peut-être moins vu en Coupe de France quand il n'était pas là?
Bah, en soi, Mbappé, même au-delà du fait d'être parisien et d'être Kiki de Bondy, comme elle aime dire un certain chanteur de Gannois, il faut dire ce qui est, c'est un gars qui il aime les grands matchs. Il adore ce genre d'affiche et c'est dans ce genre de match qu'il est plus dangereux. Je veux dire, on parle d'un mec qui a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. La pression, genre vraiment, il la boit, mais vraiment. Et en ce moment... Bah, quand on a joué contre Marseille en Coupe de France, on l'a dit, il manquait Mbappé. Et Neymar et Messi, c'est des joueurs différents. Ils ont des qualités que Mbappé n'a pas, mais lui, il a une qualité qu'eux n'ont pas. Il est capable de se projeter à une vitesse où vraiment, il faut te lever très tôt pour l'arrêter. Et un Chancel Mbemba, oui, je pense qu'il aurait été très utile dans ce match, comme il a été au match aller contre Mbappé déjà. Et son absence, bah, oui, sur le premier but, c'est criant. Sur le premier but, tu vois Mbappé, il prend 7 mètres d'avance sur Bailly avant que Bailly se rende compte qu'il n'est plus au marquage. Et le fait que tu es Gigot d'absent, le fait que tu es Mbaba d'absent, le fait que tu ne mettes pas Clause titulaire avec Tavares, donc du coup, Kolasinac, au lieu d'être en centrale, tu mets Piston, bah ouais, je pense que le fait que Marseille n'ait pas trop d'automatisme dans cette défense, ça a joué complètement. Et Mbappé, bah, il s'est régalé, hein, parce que lui, il attend que ce genre d'occasion.
Ok, je vois pas mal de gens qui partent que de la vitesse de Kylian Mbappé. Mais il y a quelque chose que j'aime voir avec ce gamin, c'est au-delà de la vitesse, c'est quand il passe le ballon, il est déjà parti. Il a passé le ballon à Messi. Même Messi, à plusieurs reprises dans le match, quand Kylian lui fait la passe, il sait déjà qu'il va lui remettre parce qu'il sait que Kylian va suivre. Et ça, c'est très réducteur à chaque fois. Ce qui m'embête, c'est qu'ils n'arrêtent pas de l'appeler en tout droit. Alors que tu vois le caviar qu'il a mis à Messi, tu vois une lecture de jeu folle. Ses appels sont tranchants. Il n'y a pas que la vitesse qui joue là-dedans. Il y a l'intelligence de jeu. Et Hitch, toi, t'as pensé quoi de Kylian Mbappé ce soir, par exemple?
Ah, moi, je vous ai dit en début de live, je vous ai dit c'est la meilleure prestation depuis Ronaldinho. Kylian Mbappé ce soir, c'est un but, une passe D. Ça parle de soi-même. Kylian Mbappé, qui à chaque fois on dit vitesse, 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 mais Kylian Mbappé, c'est déjà une légende du football, mais il a encore une marge de progression incroyable. Et il a énormément progressé dans sa vista. Kylian Mbappé, il a un coup d'œil et sa passe décisive, elle n'est absolument pas anodine. Kylian Mbappé, c'est quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une-deux sur le côté avec Nuno Mendes, où il a fait partir. Bon, à un moment, il le fait partir il y a l'enjeu qui est limite, mais quand même, Mbappé aujourd'hui, Mbappé, c'est un joueur qui est complet. Mbappé, c'est un joueur qui est complet. Mbappé, il sait tout faire. Et j'ai envie de dire même, avec ce Mbappé de ce niveau-là, tu me parles de tactique, tu me parles de tout ce que tu veux, il peut éteindre la lumière contre n'importe qui. Vraiment. Kylian Mbappé actuellement, ce qu'il fait, c'est dans les veines de ce qu'il fait en équipe de France. C'est-à-dire que là, actuellement, Kylian Mbappé, tu construis ton projet autour de lui, c'est du sûr, c'est du fiable, c'est du costaud. Voilà. Donc, voilà. Après, Messi, après, j'ai parlé également de Messi. Messi, c'est une légende. Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Messi, c'est vrai, c'est le GOAT. Maintenant, Messi, je pense qu'il a compris qu'il vieillissait. Et Messi, quand même, c'est un joueur qui vieillit plutôt bien parce que les joueurs qui misent tout sur le physique, lorsqu'ils vieillissent, c'est compliqué. Mais quand même, Messi, il a une intelligence du football qui est folle. Et en absence de Neymar, quand tu laisses un Messi à Mbappé, eh ben Messi, il a un peu ce soleil du milieu de terrain. Il arrive vraiment à capitaliser les passes et les réorienter. Après, le problème, c'est qu'il marche toujours, c'est vrai. On peut pas trop changer l'animal. Il est comme ça, faut composer avec. Mais c'est deux top perfs de Messi et Mbappé ce soir. Ouais.
Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour de l'effectif. On va peut-être parler du petit Zaïre Emery.
On
Franchement,
peut
vous
juste
le
parler de
connaissez.
Kimpembe qui a fini sa saison.
Après, on n'a pas encore
Il n'a pas joué.
l'analyse médicale. Hein.
On va dire
Non,
qu'il
non, si,
n'était
si,
pas
apparemment,
dans l'effectif cette saison, en fait. C'est tout. Il
c'est
n'était
ça, mais
pas
dans
dans
le chat,
l'effectif.
ça, dans le chat, ça n'arrête pas de dire que apparemment la blessure de Kimpembe, c'est statué, c'est fin de saison là.
Ouais, on verra
C'est
bien.
une perte. C'est une perte. C'est une perte. Après, quand même, je vais faire une parenthèse sur la blessure de Kimpembe. C'est bien sûr, c'est très préjudiciable pour le Paris Saint-Germain parce que c'est un titulaire du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui aime le club, donc force à lui. J'espère qu'il se remettra et on verra comment ça avance. Maintenant, sur la défense, est-ce que ça impacte beaucoup le Paris Saint-Germain? Moi, j'ai trouvé que Galtier, je ne sais pas si s'est remis à regarder les matchs du Real, je ne sais pas s'il a regardé des compiles sur YouTube, je ne sais pas s'il a commencé à jouer à FIFA tout court. Mais il a compris que Ramos axe central, ça marche. Donc ça,
Bah,
enfin, tu
enfin.
mets Ramos axe central dans une défense à 3. Donc Kimpembe, c'est préjudiciable. Maintenant, avec la défense qu'on a maintenant, si on a Ramos qui est haut niveau en Ligue des Champions contre le Bayern, on a un Danilo qui est toujours constant. Voilà, et Marquinhos qui reprend son rôle un peu de capitaine, ça peut le faire.
Bah ouais, pareil, hein. Moi, je pense que c'est pas si grave que ça. Après, ça nous retire une solution, bien évidemment, en cas de blessure. Mais si ça permet de mettre Danilo titulaire au lieu de le mettre sur le banc, c'est pas si terrible que ça. Après, force à Presco, bien sûr, on l'aime beaucoup. C'est un titi. Mais niveau football, franchement, sa saison, voilà quoi. Sans commentaire. Zaïre Emery, je voulais parler du petit parce que souvent, depuis qu'il a joué, j'ai toujours été très positif à son égard et tout. Par contre, je suis désolé, les gars, ce soir, je l'ai trouvé dégueulasse.
Il a joué arrière droit, il a joué
Je
arrière
sais,
droit, encore une
je
trouvaille
sais,
de
je sais.
Galtier.
Non, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Déjà, le fait qu'il était arrière droit, ok. Là, il n'y a pas de souci, il n'était pas à son poste. Mais dans l'envie, je n'ai pas vu le roi raid que j'ai vu dans les autres matchs. Après, peut-être le contexte classico est peut-être un peu fort pour lui, mais tu te rends compte qu'en huitième de finale, je l'ai trouvé plus porté vers l'avant, il tentait plus de choses, quoi. Et là, ce soir, je l'ai trouvé comme s'il avait un peu peur. J'ai pas retrouvé le roi Rennes que j'ai vu depuis qu'il est arrivé. C'est ma vision à moi ou par exemple, tonton, t'as vu la même chose?
Ben, moi, je peux l'expliquer par le contexte. Je veux dire, le dernier match où il rentre contre l'OM, on est en train de perdre un classico. Donc, le mec, il se dit, imagine, moi, j'arrive à changer le truc. Il a faim, comme pas permis. Là, il rentre, fin de match, pas à son poste, on gagne 3-0. Bon, ben, j'attends la fin du match. Tu veux que j'apporte quoi de plus? Moi, je pense que c'est ça, en fait. Tu vois, je suis sûr, tu le mets dans un autre match, dans un autre contexte, tu le mets titulaire, il aura plus faim que ça. Mais là, tu fais rentrer à la fin du match les 10 dernières minutes, pas à son poste, en mode allez, bon, vas-y, Moukele doit souffler, on va sacrifier le genou, pas à son poste. Bah, il rend ce qu'on lui donne. Hein.
Et toi, Hitch?
Moi, clairement, Warren Zaïre-Emery, il est là pour dépanner. C'est pas son poste, il est arrière droit. Il rentre dans un match où Paris même, ils sont un peu en temps faible parce qu'après 3-0, c'est vrai que sur ça, on peut en parler un peu, mais à partir de la 65e, 70e, le Paris Saint-Germain, ils sont plus autant tranchants. Ils sont clairement dans le contrôle, ils ont raison. Ils jouent le Bayern, il ne faut pas se blesser parce que des mauvais coups peuvent arriver. Donc là, il est sur un match où Paris, ils sont un peu en temps faible. Lorsqu'il rentre sur Marseille, c'est différent. Marseille est en train de gagner, Paris est en train d'attaquer. Donc lui, il peut se projeter et c'est clairement son domaine de se projeter. Donc voilà, donc c'est pas. C'est un match anecdotique parce qu'il n'est pas son poche, il est pas à son poste. Je pense que Warren Zaïre-Emery aujourd'hui, on le met central, on met goal volant, on le met où il veut, c'est pas son poste. En préfaux, quand ils sont jeunes, c'est vrai qu'ils font plusieurs postes, mais là, c'est un match de Ligue 1, c'est pas l'entraînement. Donc, c'est préjudiciable. Non,
c'est trouvé à la Galtier, il avait fait la même chose avec Renato Sanchez à Lille, où il avait mis milieu droit une fois, il avait fait la même chose avec Efren Thuram, une fois, quand il avait joué contre nous, il avait fait un 4-4-2 avec Thuram milieu droit. C'est sa lubie. Il aime bien prendre un milieu central et dire lui, il est costaud, il se projette vers l'avant. Hey, je vais le mettre milieu droit, ça va être incroyable. Je sais pas ce qu'il a Galtier avec ce truc. Et tu verras, je mets pas ma main à couper, mais je mets le sourcil à dégrader. Dans son prochain club, Galtier, il le fait encore.
Oui, par contre, on part de Warren Zaïre-Emery. À un moment, il met un coup de tampon à Payet. Payet, il mange la pelouse. Ah, franchement, c'était le WWE. C'était le Royal Rumble.
Après,
pour ça, je trouve qu'il a fait son match. Rien que pour scout physique, où il envoie Payet. Hein. Payet, il a un bidon Payet quand même. Hein. Payet, c'est un poids lourd dans les sports de combat. Il envoie Payet dans la pelouse.
Comme j'ai dit au préalable, moi, je l'aime beaucoup, ce petit. Moi, j'ai toutes ces entrées qu'il a faites, même quand tout le monde est tombé sur lui à Reims pour la passe qu'il a fait en retrait, j'étais quasiment le seul à le défendre. Parce que, vas-y, c'est un petit, c'est normal, il a 16 ans. J'ai juste trouvé dans l'attitude que je n'ai pas vu le Warren de d'habitude. Et une deuxième question suite à ça, est-ce que ce n'est pas un désaveu de fou contre Pembélé? Parce que, je ne sais pas, tu avais Pembélé sur le banc, tu as préféré prendre Zaïre-Emery qui joue au milieu de terrain pour le mettre arrière-droit à un poste qu'il ne connaît pas, alors que tu as Pembélé qui a déjà fait une saison en professionnel du côté de Strasbourg, si je ne me trompe pas.
C'était à Bordeaux qu'il était en prêt, Pembélé.
À Bordeaux, ouais, exactement. C'est une petite ville comme ça. Non, je rigole, les Bordelais. Non, vas-y. Je rigole. Vas-y, tonton, je t'écoute.
Bah, si, c'est un terrible désaveu pour Pembélé, mais Pembélé, pareil, hein, c'est un joueur qui revient des croisés. Il s'était fait les croisés à Bordeaux quand il était en prêt. Donc, j'entends le pragmatisme et la prudence concernant sa situation. Mais là, franchement, c'est dégueulasse. T'es en train de gagner 3-0, il reste 10 minutes. Tu ne le fais pas rentrer lui. Je sais pas, je crois que tu as trop regardé le Bayern. Tu t'es dit, hey, Kimmich, c'est un milieu de terrain, ils ont fait jouer à l'arrière droit, ça a bien marché. Viens, on fait la même chose avec Warren. Bah non, ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est vraiment pas cool pour Pembélé, parce que Pembélé, là, c'est le genre de prestation. Il va regarder ça, il va se dire, OK, j'ai pas ma place ici, en fait. Hakimi, il est blessé, Moukele, il sort, et on met un mec qui n'est pas son poste à ma place. Donc, si Pembélé demande à partir en fin de saison, bah, on ne sera pas étonné. Mais bon, après, pour une fois, on est fourni à ce poste, j'ai envie de te dire. Donc, c'est un peu un deal un peu pas cool pour lui, quoi.
Ah oui, petite correction, c'est vrai que c'est Dagba qui est à Strasbourg, pardon. Effectivement, oui. C'était toujours un latéral droit, mais c'était pas le bon. Oui, bah du coup, écoutez, on va se projeter sur le match du Bayern. Hitch, est-ce que le match de ce soir a fait changer ta mentalité pour le match qui arrive dans 10 jours où ça a absolument rien à voir et tu es toujours pareil, quoi?
J'ai envie de dire, c'est compliqué parce que le Bayern ont battu l'Union Berlin 3-0. Ils ont battu le deuxième. J'ai vu le match et c'était un match où franchement, ils ont dominé leur sujet du début à la fin. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ils répondent avec la manière. Ils gagnent 3-0. J'ai envie de dire, il n'y a qu'un but d'écart. Donc bien sûr, on y croit. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que le Bayern aujourd'hui, ils ont joué dans le même système que Marseille. Ils ont joué en 3-4-3. Ils ont joué dans le même système que Marseille avec Moussiala qui est multi-terrain, qui a joué, du coup, il a joué à droite, il me semble. Il a joué à droite, du coup, c'est un peu comme Guendouzi. Donc, du coup, ça a été le même système. C'est vraiment un match miroir. Donc, pour étudier ce match-là, Galtier, il aura les billes. Donc, ça, c'est le seul point qui est positif. Maintenant, est-ce que mon avis a changé ou pas? Le Bayern, ils sont chez eux, ils sont toujours favoris. Ça, il faut se le dire. Ils ont quand même des joueurs de talent. Voilà, après, ils ont un Kingsley Coman qui est en feu. En plus, il est Titi parisien. Donc, il va jouer contre l'équipe de son cœur. Donc, il va être galvanisé. Voilà, après, le 3-5-2 contre Marseille, il a bien marché. Je pense qu'il faut, il faut le réaligner. Le prochain match de Ligue 1, il faut le réaligner après contre le Bayern. Et voilà, j'ai envie de dire, je suis parisien, je suis confiant. En tant que supporter de football, bah, tout peut se passer, oui, pourquoi pas. Et si ?
Il y a qui s'est embrouillé ? C'est pas ça que tu me dis, vous verrez la vidéo.
Le jour du match.
Il s'embrouille avec les supporters de Marseille. Je sais pas s'il parle de Payet, je sais pas.
Ah, non, mais ça, j'en ai pas parlé. Mais vous avez pas vu la vidéo ?
Non, je suis parti en live.
Je voulais en parler pour le cas Galtier. Bon, j'en parle maintenant. Je voulais la garder pour le cas Galtier. Galtier, après le match, il y a des supporters de Marseille. Je sais pas, qui l'ont injecté. Qui l'ont...
Injecté.
Injectivé, c'est ça, non ?
Invectivé.
Invectivé. Un jour, on va faire un scrap, je vais vous éteindre. Les a invectivé. Un I-N-V-E tivé. Donc, les a invectivé, du coup. Et du coup, bah, et du coup dans son cerveau, et son cerveau, il a chauffé. Et je crois que ça... Il commence à voir... bon, peut-être qu'il vit pour les caméras, c'est pas ça, le sujet. Mais je pense qu'il commence à voir l'ADL Paris Saint-Germain, là. Il s'est énervé. Et c'est bien, parce que c'est un ex-joueur marseillais. Mais le fait qu'il s'embrouille avec des supporters marseillais, ça change rien sur ce que je pense de Galtier. Mais ah, ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir. S'il a fait ça pour les caméras, et ben c'est une masterclass de communication. Voilà.
Il y a Yo qui nous dit « Injectivé, je vais la sortir au taf, celle-là, j'aurai une prime.
» Je pense que ça reste dans le top des performances de Hitch avec Alexandre Leroux.
Mais parce que moi, je fais des baccalauréats avec des mecs, c'est des tocards un peu. Une fois, j'ai fait un baccalauréat, le dernier, un mec en fruits et légumes en L, il a mis l'ananas. Vous avez vu un peu le niveau avec quoi il joue, c'est pour ça que…
Ah ouais, chaud. Ok.
En bref.
Est-ce que tu as déjà placé Alexandre Le Gros à tes potes dans le baccalauréat ?
Bah écoutez, c'est une bonne passerelle pour parler de Galtier. Bah du coup, il a un peu dans la continuité de Lille sauvé sa tête. Est-ce que la victoire de Lille, on en avait déjà parlé en débrief, est-ce qu'une victoire comme ça ne change pas une saison ? Parce qu'on voit régulièrement, on ne va pas comparer parce que c'est en Ligue des Champions en général, mais on voit vraiment qu'en général, le Real Madrid, avant de lancer leur saison, il y a toujours un match comme ça qui les relance. Et par exemple, là, leur début de saison, il n'est pas catastrophique. C'est Barcelone qui est peut-être un peu au-dessus au niveau du championnat. Mais là, ça a été sur un match. Liverpool les a pris d'entrée. Ils sont revenus, ils les ont terrassés. Nous, l'année dernière, quand ils sont arrivés contre le Paris Saint-Germain, ils étaient complètement malades. Bah, on les a remis sur pied, du coup, avec ce mauvais souvenir. Est-ce que le match de Lille, par exemple, n'a pas remis le Paris Saint-Germain sur les bons rails, tonton ?
Bon, ouais, je sais pas, et pour répondre à la question aussi que tu as posée sur Galtier, non, il n'a pas sauvé sa tête, ce serait bien trop facile, comme l'avait dit Hitch. C'est pas parce qu'on va battre le Bayern que la saison sera réussie, ce sera un feu de paille. Moi, je pense que bah, tu as Mbappé dans les deux matchs. Il n'était pas présent contre Monaco, il n'était pas présent contre Marseille, de Roost. Donc, je pense que c'est la présence de Mbappé aussi qui sauve pas mal Galtier. On va pas se mentir, parce que s'il n'est pas là ce soir, est-ce qu'on gagne ? Je pense qu'on peut se poser sérieusement la question. Donc, moi, je suis toujours pour changer de coach, mais comme j'ai dit, pas changer à tout prix et pour n'importe qui non plus. Mais j'ai aucun poids de décision dans ce club, donc ça ne sert pas à grand-chose.
Et toi, Hitch ?
Moi, j'ai fait un parallèle avec l'élève au baccalauréat qui n'est pas révisé toute l'année. Hein ? Et là, il y avait les épreuves et il devait performer. Et ben, c'est pareil pour Galtier. Galtier a commencé ses épreuves. Et là, du coup, ben, il y a le Bayern qui est COEF 8 ou COEF 12 la semaine prochaine. Et il peut pas se louper. Donc là, il a validé Marseille. C'est bien avec la manière. Mais j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain a affligé un visage tellement affligeant. Bon, j'aime bien les mots compliqués ce soir.
Non, c'est ça. C'est bien affligeant. Continue.
Bref, c'est pas grave. Du coup, oui, allez sur ma chaîne YouTube. Voilà, Ultra Fanef. Merci beaucoup pour la pub. Du coup, ce que je disais, c'était un visage tellement affligeant que les gens, ils ont commencé à à se dire, bah, du coup, il y a une rivalité Paris-Marseille dans le sportif. Que ça y est, les classicos c'était reparti, etc. Et ça, c'est très, très grave quand même. Donc là, je pense qu'il y a eu, j'ai envie de dire qu'on a remis l'église au centre du village.
Hein, bien récupéré.
Tu sais bien dire
ça,
les commentaires.
Ça, c'est du récupérage politique, ça, bien joué.
C'est une belle expression, c'est une belle expression. Donc du coup, voilà. Donc,
il sait comment se mettre le chat dans la poche. Ouais.
Et du coup, c'est que de la logique. Maintenant, il y a le Bayern à jouer. Le Bayern, c'est pas simple. Parce qu'on a de la chance. On affronte un Bayern qui est plus faible que le Bayern de l'année dernière ou l'année d'avant ou l'année même d'il y a 3 ans. Mais c'est quand même une équipe qui est forte, une équipe qui a une mentale, qui sait que à l'instar du Paris Saint-Germain, ils savent mener un match de bout en bout. Il n'y a pas beaucoup de temps faible contre le Bayern. Après, le Bayern, lorsqu'il passe à côté de leur match, il passe à côté salement de leur match. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Les matchs qu'ils ont perdu le Bayern en Bundesliga, c'est des matchs à plus 2, plus 3. Donc quand il flop, il flop. Donc ça aussi, il faut se le dire. Après, encore une fois, si le Paris Saint-Germain bat le Bayern ou si le Paris Saint-Germain va en quart de finale, on ne va pas m'enlever de la tête encore que Galtier, le Paris Saint-Germain sous Galtier pour la Ligue des Champions, c'est quand même encore difficile.
Ok. Écoutez, on a Kylian Mbappé qui est live avec nous en direct du Vélodrome et qui est souhaiterait nous dire quelque chose.
Moi, tu ne me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, tu ne me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Eh oui, merci Kiki. Justement, parfaite transition. Kiki est à égalité maintenant le meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec Edinson Cavani, sachant qu'il lui reste au moins une fin de saison dans le pire des cas. Dans le pire des cas, puisque dans le meilleur des cas, il va rester l'année d'après aussi. Dans le pire des cas, vous pensez que ça va lui prendre combien de temps pour être le seul meilleur buteur du Paris Saint-Germain? Vous pensez que c'est une histoire qui sera réglée peut-être contre Nantes ou un record qui sera battu dans un grand match face au Bayern où il ramène le Paris Saint-Germain en quart de finale?
Non, je rejoins la théorie de Barry. Barry l'avait dit, doublé au Vélodrome et il bat le record seul contre Nantes au Parc. Je pense que Barry a raison. Il va mettre ce but contre Nantes. Il ne va pas attendre le Bayern parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, il peut très bien se blesser. Le foot, ça va vite. Le football, il a changé, comme il a dit lui-même. Donc moi, je pense Mbappé, il va marquer contre Nantes s'il peut, histoire de sécuriser le titre et d'être le meilleur buteur du PSG. Et comme ça, justement, il arrive contre le Bayern avec cet orgueil de « je suis le meilleur buteur du PSG et je porte ce PSG ».
Et toi, Hitch ?
Moi, le feuilleton Kylian Mbappé, je l'attends gros comme une maison. C'est sûr qu'il y aura Kylian Mbappé, le feuilleton. J'espère l'avoir le plus tard possible. Voilà. Parce qu'à partir du moment où la saison du Paris Saint-Germain est finie, ça y est, Kylian Mbappé, qu'est-ce que fait Kylian Mbappé? Kylian Mbappé a mangé Hakimi à Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kylian Mbappé va emmener avec lui Hakimi à Madrid? Il y aura des feuilletons complètement fous. Là, actuellement, Kylian Mbappé, il surperforme au Paris Saint-Germain. C'est peut-être le meilleur joueur au monde. Voilà, il faut se le dire. Kylian Mbappé, dans n'importe quelle équipe aujourd'hui, il est titulaire indiscutable. Ça, c'est une hérésie de ne pas le penser. Et voilà. On l'aurait, dans un gros club actuellement, dans un club, une institution du football actuellement, Kylian Mbappé, Ballon d'Or. Mais Ballon d'Or, logique. Donc, il faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, ça va être dur de le garder si on ne crée pas un projet sportif cohérent. Parce qu'il veut gagner, et c'est totalement normal. Maintenant, maintenant, Kylian Mbappé est tellement fantastique que le PSG, en fait, est Kylian Mbappé dépendant. Et ça, c'est vraiment compliqué. Parce que s'il se blesse, on vibre. Voilà.
Écoutez, je vais rentrer un peu dans la vie personnelle de Tonton. Je tiens à présenter mes excuses à la famille de Tonton qui peut-être nous regarde parce que je sais qu'il y en a qui sont dans l'éducation nationale. Sachez que dans le top 3, Hitch, il a dit le mot injectivé. Moi, j'ai utilisé le mot récupérage politique au lieu de récupération politique.
Oh, c'est grave. Les gars, finissez-le.
Tonton, la famille de Tonton, on présente nos excuses. On sait que c'est très important pour vous. Et vu le nombre de livres que Tonton il a derrière lui, je pense que c'est très important pour vous et on présente nos excuses. Voilà, ça c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va passer dans la phase questions-réponses de l'émission. Et en attendant vos questions, on a gagné 3-0 l'OM aujourd'hui. Donc on fait la fête.
3-0. Tu peux sortir ton slip, Alexandre Le Gros.
3-0 au Vélodrome. C'est le score de la soirée. Le Paris Saint-Germain qui a 8 points de l'OM. Lens qui a fait match nul. Monaco qui a perdu, je crois, 3-0. Le boulevard Saint-Germain devant nous. Le titre nous attend. Je ne vais pas porter la poche, je rigole. Écoutez, y a-t-il des questions dans le chat? Nix, il a l'immunité. Ah, merci, Lassana.
Ils aiment beaucoup le adjectiver.
Adjectiver, il était plus fort. Il était plus fort.
Les gars, dites adjectiver en soirée. Genre, j'étais au volant, un policier m'a adjectivé. Ça passe. Ça passe. Ma copine, elle m'a adjectivé de changer de pièce. Ça passe. Ça passe, les gars. Mais il faut être un peu bourré. Il faut être déjà un peu bourré pour que ça passe.
Ta meuf, elle n'est pas prof de français.
Première question de Fabien, je vous la laisse. Même compo contre le Bayern ou pas?
Ben ouais, oui. C'est un peu ce qu'on disait. On disait déjà avant le match aller, on disait qu'il fallait jouer dans cette compo avant le match aller. Pourquoi changer de fusil d'épaule alors que maintenant qu'on voit que ça marche, il faudrait changer. Non, oui, il faut cette compo contre le Bayern complètement.
Il y a Harry qui nous dit Hitch a raison, j'aime Mbappé, mais il serait ballon d'or dans une autre équipe déjà car il joue avec Messi. Même question de William qui nous dit le Bayern, vous repartez en 3-5-2 ou à 4 derrière. Donc je pense que vous venez de répondre à la question. Putain, ils sont trop sur tes côtes. Le résumé de RMC de ce match, Paris en mode injectivé. Vous êtes des rois, vous êtes des rois dans les commentaires, c'est horrible.
Il y a un mec tout à l'heure, il a dit ouais, il subit des leggings. J'allais taper mon écran.
Hakimi contre le Bayern. Ah, bonne question. Vous mettez Hakimi contre le Bayern ou Mukiele? Hitch, il va dire Hakimi, forcément. La loyauté.
Non, les gars, au bout d'un moment, les gars, faut être logique. Bien sûr que je mets Hakimi, mais c'est quoi ces questions? Hakimi, quand même. Hakimi, pour le moment, Nordi Mukiele fait un très bon match à l'image de toute l'équipe. Mais Hakimi, c'est le titulaire, Hakimi, quand même. C'est Hakimi, surtout si on joue en 3-5-2 dans son système préférentiel. Donc oui, Hakimi, bon, il a quelques errances défensives, mais si Hakimi est bien servi en phase offensive, c'est létal. Donc oui, je m'attends.
Je rejoins Hitch, autant je suis fan de Mukiele, mais autant Hakimi, c'est une classe au-dessus et c'est son poste. Ça fait un an qu'on le recrute, qu'on ne le fait pas jouer dans les bonnes dispositions. Là, on a l'occasion de le faire, ce serait con de ne pas le faire. Je veux dire, là, en plus, ça te permet d'avoir un autre champ parce que en vrai, tu regardes le PSG, tu sais qu'on va toujours passer par la gauche avec Nuno Mendes et Mbappé. Là, le fait d'avoir Hakimi, ça te permet d'avoir un circuit en plus. Peut-être que Vitinha, il aura une solution supplémentaire. Et du coup, Nagelsmann, il ne pourra pas forcément aligner une défense à 4 avec et Cancelo et Davis. Il sera obligé de mettre une défense à 3 s'il veut faire ça. Parce que tu pourras aller dans les deux sens.
Mais en plus, il n'y a pas Neymar, en fait. Donc, il y a Mbappé, Hakimi, c'est des potes. Il va s'asseoir à côté de qui dans le vestiaire? Il sera obligé de la lâcher à Hakimi. Vous croyez Messi va parler à Soler et à Ruiz? Ils sont comme sur le terrain, ils ne doivent même pas avoir cette conversation, eux. Il est obligé de la lâcher à Hakimi. Il faut mettre Hakimi. Hakimi, 3-5-2, c'est son système préférentiel.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Il y a Harry qui demande, j'adorais essayer Hakimi en ailier droit et tu laisses Mukiele derrière, genre comme Gareth Bale.
Une défense à 4, ouais. Du coup, tu mettrais Mukiele arrière droit dans la défense à 4, donc un espèce de 4-2-3, ouais.
En 3-4-3, moi.
Mais le truc, c'est si tu fais cette espèce de 4-2-3 avec Hakimi ailier droit, tu fais quoi? Tu fais Messi faux 9, Hakimi ailier droit, Mbappé ailier gauche avec Nuno et Mukiele. J'essaie de comprendre l'animation. Il y a un milieu, Verratti, Vitinha, Ruiz et une défense. Et oui, donc du coup, tu sacrifies un Danilo ou un Ramos ou un Marquinhos.
Non, il sacrifie un milieu s'il passe en 3-4-3. Ça veut dire que du coup, il sacrifie un milieu terrain. Ça marche pas avec le Paris Saint-Germain, ça. Et surtout, même en 4-3-3 avec Hakimi ailier droit, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que Hakimi, il lui faut de l'espace pour démarrer. Là,
la blague de Jojo Bar dans le chat là sur Soler et passé crème sur le banc, je suis client. J'aime beaucoup.
Pas mal, ouais, j'avoue, pas mal. Très bien.
Il y a aussi, on nous a demandé est-ce que vous remettez, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la même compo, mais là, plus précisément. on vous a demandé est-ce que vous remettez le même milieu contre le Bayern, en sachant que dans l'impact, c'est pas trop ça. Parce que là, oui, c'est une bonne question, les gars. Est-ce que ce milieu dans l'impact peut faire le travail face au Bayern?
Oui, bah, j'ai envie de dire que l'Union Berlin aujourd'hui, ils ont mis beaucoup plus d'impact que le Bayern. Parce qu'encore une fois, le Bayern, il se concentre vraiment sur les côtés, avec Alphonso Davies, avec Coman, avec ils sont plus l'état sur les côtés, avec un Moussiala même qui prend l'aile. Qui prend le demi-espace. Et du coup, la bataille du milieu de terrain contre le Bayern, certes, il y a Kimmich, bon, il y a Goretzka, mais aujourd'hui, l'Aïdouni, il leur a fait un boulot. Donc, j'ai envie de dire que oui, je remets le même milieu.
Et après, Hitch, mais lequel de nos trois milieux est l'Aïdouni physiquement et dans l'impact? J'aimerais bien savoir lequel des trois, entre Verratti, Ruiz et Vitinha, tu mets dans le même profil que l'Aïdouni, ça m'intéresse.
Oui, c'est vrai que l'Aïdouni a un profil vraiment impact, vraiment physique. Après, tu peux faire monter Danilo d'un cran et Mukiele peut jouer en défense axe droit si tu veux un peu plus d'impact. Mais dans tous les cas, on va jouer avec moi. On est une équipe, le milieu, on est une équipe normalement avec Ruiz, Vitinha, Verratti. En théorie, on est une équipe qui doit garder le ballon. Donc on verra, mais oui, moi je laisse le même milieu parce que ce milieu-là, il a fonctionné. Tu leur donnes du rythme, c'est pour les réaligner après.
Bah, je vois plus de questions, donc si c'est tout pour vous, la team Paris Central. Oui, c'est non, désolé, si vous n'avez pas de questions, les gars, bah, on va vous laisser. On va aller peut-être dormir, j'imagine que.
On n'a pas fait les top et flops, si, non?
Mais non, on a dit qu'on veut faire quoi?
Non, mais dans le top, moi j'aimerais juste parler pour finir de Donnarumma.
Vas-y.
On va parler de Donnarumma. Et Donnarumma, il fait quand même un match exceptionnel, Donnarumma. Et souvent, on l'a fusillé ici, dont moi. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, il fait un match, mais top du top. Donnarumma, c'est une barrière de parking. Il se baisse super vite. Franchement, c'est terrible. Les deux arrêts qu'il fait, c'est une masterclass. Donc, Donnarumma, je voulais un petit mot pour lui parce que franchement, il a été sensationnel ce soir.
Et une heure. C'est vrai qu'on en a parlé, mais t'étais pas encore arrivé.
Franchement, les gars, c'était un bon live. Merci à vous dans les commentaires. Vous avez été très réactifs. Pas forcément sur les bons sujets, mais ben, j'ai envie de dire que c'est bien. Et abonnez-vous à la Chip Paris Central. Abonnez-vous, likez. J'espère que tous ceux qui m'ont terminé sur mon caleçon, hein, ils ont liké. Hein. Et voilà, c'est tout. Et abonnez-vous au débrief de Hitch aussi, un peu à côté. Donnez de la force.
Ouais, abonnez-vous à la chaîne de Hitch, des débriefs de Hitch.
Je vais faire un avant-match, les gars, sur le Bayern. Allez, sort des frogs aussi.
Franchement, les gars, j'ai manqué à mes engagements de la team Paris Central. Je vous ai pas dit de liker. À mon avis, le score de like, il doit être terrible parce que si je vous le dis pas, vous ne le faites pas. Donc, ceux qui restent encore, oui, s'il vous plaît, quand vous partez, likez la vidéo. Parce que vous voyez comment on a rigolé ce soir. Imaginez à quel niveau on rigolerait si on était le double, franchement. Imaginez là, on est 300.
Imaginez s'il y avait 12 personnes au lieu de 3 qui taillaient Hitch. Ce serait vachement...
Ouais, après Hitch, le Hitch Comedy Club ici, là.
Likez en partant et merci de nous avoir suivis ce soir.
Merci, Nadia.
On est le Paris Saint-Germain. Et les sardines sont toujours des sardines. Dans la bouille, allez, hein.